Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et justement pour ça, je présente vraiment toutes mes excuses à tous les Marseillais.
J'ai eu la réaction qu'une personne ne peut pas avoir et je suis prêt à m'excuser devant le journaliste.
Le PSG ne s'excuse pas, monsieur. Le PSG ne s'excuse pas, il n'a pas besoin de s'excuser.
Honnêtement, je veux seulement dire que je m'excuse.
J'ai fait une grosse connerie. Je suis là pour m'excuser.
Je dois juste dire à notre supporter, excuse.
RMC, l'afterfoot.
Jean-Louis Tour.
L'after jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo, spécial Naïsna, ça reprend dans quelques secondes. Juste avant, j'ai deux choses à vous rappeler. Déjà que Didier Deschamps a communiqué sa liste pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas que des heures sombres dans le foot français. On espère que ça se passe bien aux États-Unis. Vous avez toutes les infos sur rmcsport.fr et notamment les réactions des joueurs qu'on a eu en direct tout à l'heure dans Génération After. Si vous avez raté ça, c'est aussi disponible en podcast. Vous dire également que le Real mène 1-0 face à Oviedo dans un match de Liga et que Kylian Mbappé vient d'entrer sous une énorme bronca du Santiago Bernabéu. Donc pour cette rencontre, pour ces retrouvailles avec le public, on en reparlera bien sûr sur RMC. Ouais, Kevin.
Tu as juste oublié de dire un truc, c'est que demain il y a quand même le dernier épisode des quarts de finale de la nouvelle voie de l'after qui sort.
Mais écoute, voilà, c'est fait. En plus, c'est fait.
Épisode à Lens.
À Lens,
avec
voilà.
Avec un très très gros niveau.
Il ne faut surtout pas rater cette magnifique.
C'est excellent. Sur la page YouTube de l'after.
Voilà.
Voilà, très bien. On revient à
Naïsna. Des plateformes.
Avec nos invités, Stéphane Kamga et François Manardeau. Donc, réalisateur, producteur plutôt du documentaire. Et François Manardeau.
Co-producteur, oui.
Co-producteur, l'ancien chef de presse des Bleus. On était sur les insultes de Nicolas Anelka. Donc, mi-temps de France-Mexique. Où tout le monde a.
Là, on est dans le cœur du sujet, hein. Oui,
exactement.
Là, c'est vraiment le virage, il est là.
Et moi, je trouve qu'il y a une illustration, d'ailleurs, qui en dit un peu plus encore sur la personnalité de Raymond Domenech. C'est quand, François, tu as connaissance de la une de l'équipe, avec les fameuses insultes donc, qui sont mises en une, et donc que tu appelles Raymond Domenech, la veille au soir, à ce moment-là, en pleine nuit, alors que la une va sortir vraiment quelques heures après.
Je décide d'appeler le coach.
J'étais en train de lire, j'arrivais pas à dormir. Il me dit demain il y a un truc qui sort sur l'équipe.
Ça va te faire enculer, sale fils de pute.
Je lui dis ah bon, ça sort quand? Demain? C'est sur l'équipe, ça sort à Paris. On est où nous? Bah écoute, on verra demain matin. Et je crois que là je me suis endormi.
Non mais il me dit pas exactement ça non plus.
Ah bon, bah, il
c'est emmerdant. Mais c'est emmerdant. Mais moi, je le connais tellement.
C'est la même idée quand même ou pas? Qu'est-ce qu'il te dit?
Il me dit. Alors d'abord, il me le dit pas clairement, mais je comprends qu'il est au courant. Parce que je pense que y a pas que les joueurs qui avaient des bons contacts avec des journalistes, lui aussi. Donc il a été mis au courant de cette une par un journaliste avec lequel il a des atomes crochus depuis 40 ans.
Ouais, Vincent Duluc donc.
Vincent
dont
Duluc.
Il faudra parler dans un instant parce que c'est bien beau de se plaindre du doc comme il l'a fait.
Ouais,
nous, on aurait plutôt aimé qu'ils disent on a fait une une de merde en 2010 et on l'assume et on s'excuse. Or ils ne l'ont jamais fait ni
Merci.
Lui ni les patrons de l'équipe de l'époque et je trouve que c'est absolument lamentable. Mais bon, rien.
Alors, il s'explique dans
journal.
Le doc. Hein. Vincent Duluc, François Morinière, le patron, Sébastien Tarrago ouais. également.
Ils sont assez épargnés, moi, je trouve. Hein.
Ils sont carrément épargnés.
À la prod, mais bon, après, il y a 1h20, il faut faire un montage.
C'est incroyable, cette une.
Mais je trouve que l'équipe s'en sort pas mal. Alors par rapport au traitement journalistique de la une. Hein.
Sachez qu'on a posé toutes les questions. On a posé des questions par rapport à la une. Ils n'ont pas souhaité répondre.
C'est pire encore.
Alors, je reproche rien du tout au doc là-dessus, mais eux... Franchement, venir se vanter d'avoir fait une comme ça, alors que c'est faux, et encore aujourd'hui, ne rien dire, et venir juste sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour dire, si vous avez 1h20 à perdre, faites autre chose que de regarder le doc.
Ça, c'est
le sans déconner.
C'est
lamentable.
Quand même.
C'est franchement lamentable de dire ça.
Tous les gens de l'équipe sont les bienvenus sur RMC pour s'expliquer si leur parole a été dévoyée dans ce doc. Ils ont
les
la parole sur RMC.
Ils ont toujours été les bienvenus pour venir où ils veulent. Ils peuvent venir où ils veulent.
Ça,
sans problème. Le plateau de l'after est ouvert.
Et le deuxième truc aussi, qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu quand même une décision de justice sur cette une, puisque Nicolas Anelka a poursuivi l'équipe en diffamation et qu'il y a eu relax décidé par le tribunal de Paris en disant que la conclusion, c'était que même si le débat existait sur les mots exacts prononcés, donc c'est pas exactement ces mots-là qui sont en une,
oui.
L'injure n'est pas contestée. Donc c'est pas aux joueurs de juger le traitement journalistique des propos de vestiaire.
C'est quand même incroyable ce jugement. Le gars, on l'a fait passer pour quelqu'un quelqu'un qui insulte des pires insultes de son entraîneur, qui depuis et à jamais dans l'histoire du football et dans son histoire personnelle sera assimilé à des mots qu'il n'a pas tenus, en tout cas selon les protagonistes, et t'as un tribunal qui te dit non mais monsieur, bon c'est peut-être pas ce que vous avez dit mais ça va le faire quand même. Non. La question que je veux poser depuis tout à l'heure,
mais moi je voudrais revenir sur ce que tu dis parce que c'est très important et c'est super sensible là, sujet, Kevin.
D'accord.
Donc chacun prend des tickets. Attends, Kevin avait pris son ticket en premier dans la file. Donc vas-y. Donc,
ma question. Alors déjà, je suis pas du tout d'accord avec le journaliste de l'équipe qui a fait ce tweet cet après-midi. Moi, je pense qu'il faut absolument voir le doc. Mais moi, ma question c'est déjà, est-ce que vous leur avez demandé pourquoi vous n'êtes pas excusé, ou pourquoi vous n'avez pas fait un démenti, ou pourquoi vous avez publié quelque chose qui n'est pas vrai
là-dessus, moi je peux répondre avec un grand confort, c'est que je pense de tous les échanges que j'ai eus, aussi bien avec Vincent Deluc, Tarago et bien d'autres qui n'ont pas souhaité s'exprimer, pourtant qui étaient au corps de l'écriture de cette une de l'équipe, c'est que ils sont pas d'accord entre eux. Ils sont pas d'accord entre eux sur est-ce qu'il fallait la mettre ou pas. Mm-hmm. Ça, ils l'ont clairement dit.
Ok, ça je peux le comprendre.
Le débat, c'est si tu sais qu'il a dit ça, tu peux faire débat, on le met ou on le met pas. Mais si tu sais que ça n'a pas été dit, le débat, il n'existe pas en fait. Donc le d'accord ou pas d'accord entre eux, on n'a si rien en vrai.
C'est juste
eux, ils ont inventé une, et Morinière le dit, il est tout content d'avoir inventé cette une, et que derrière, Domenech, ami de 30 ans de Vincent Deluc, est venu devant les journalistes pour confirmer, et Escalette a confirmé les mots. La grande manipulation, l'énorme mensonge, il est là. Escalette, moi, à la place d'Anelka, je suis comme un dingue, moi, avec cette histoire-là.
Totalement.
Non, mais ça, c'est sûr.
Ah ouais?
Une chose dans le fait que Nicolas a été débouté. De sa plainte pour diffamation, c'est que l'information de l'insulte, le traitement qu'il y a dans le journal, et moi c'est mon problème à l'époque, c'est pas la une, à la limite la une je m'en fous, mais c'est qu'il y a eu une altercation. Je le sais la veille, et c'est confirmé. L'info est vraie. Mais après on est sur des éléments, alors là, il y a des journalistes, enfin toi et Daniel, vous êtes journalistes, mais c'est le traitement journalistique de la une qui pose un problème. Et le juge, dans son ordonnance, dit, et il y a une jurisprudence en LK depuis, qu'on peut exagérer, mais ça n'enlève pas le fait que l'insulte et la plainte pour diffamation...
Il y a quand même une différence entre fais là ton équipe de merde et va te faire enculer, sale fils de pute, quand même. C'est pas une exagération, ça.
Daniel, elle est inaudible dans un sujet aussi médiatisé que l'équipe de France. Ça, c'est inaudible.
Oui, d'accord, mais ça peut être inaudible. Après,
là, on parle pas d'exagération, excuse-moi.
Je suis désolé, mais je suis pas juge et je suis certain qu'il y avait des appuis au niveau de la loi, etc. Législatif, il y a aucun problème. Mais il y a un moment quand même, il y a des humains derrière. Et donc le gars, il y a encore des Français aujourd'hui, mais ça se compte en millions, les gens qui croient qu'il a vraiment dit le truc. C'est ça qui est complètement fou. Il y a au moins, je pense, 20 à 30 millions de Français aujourd'hui qui croient qu'il a vraiment dit ça. Parce que c'était dans un journal. Dans le journal.
Alors que ce qui a choqué Domenech, c'est qu'il l'ait tutoyé.
C'est une des vérités qu'on essaie de rétablir, parce que 16 ans après, il y a encore beaucoup de gens qui en veulent à Nicolas Anelka pour des propos qu'il n'a absolument pas tenus. Et nous, on a trouvé ça très important de pouvoir rétablir cela. Parce que, il faut savoir que nous, on a mené plus de 116 heures d'interview. On a eu à interviewer plus de 30 différents protagonistes. Il y en a plein, même qui nous ont appelé après pour nous dire que finalement, ils ne voulaient plus participer. Et on l'a respecté. Et on ne les a pas mis à l'antenne, malgré d'autres qui disent le contraire. Et de tous les gens, mais alors tous les footeux, off, pas off, ils sont catégoriques là-dessus. C'est une injustice que Nico a subie. Raymond nous le dit. Moi, quand j'ai échangé avec Raymond avant son passage, c'était l'une des choses qu'il voulait. Lui venait pour réhabiliter Nicolas aussi. Oui. C'était l'un de ses objectifs, de dire qu'il avait vécu une injustice, que c'était trop dur et que aujourd'hui.
Il a fait une belle jambe alors qu'il l'a mis dans la merde avant.
Et d'ailleurs, sur Nicolas Anelka, qui n'est donc pas dans le doc, considère qu'il avait déjà fait le sien, c'est ça.
On a parlé de Nicolas Anelka, on s'est vu à 2-3 reprises, on a beaucoup parlé avec son entourage et il avait souhaité effectivement ne pas participer. Parce qu'il estimait qu'il avait déjà dit les choses, mais qu'il espérait qu'on allait pouvoir quand même retranscrire la vérité.
Alors je vous recommande, si vous êtes fan de l'histoire Naïsna, sur le compte Twitter de Roten sans flamme, on a ressorti l'émission qui avait été faite avec Patrice Evra, avec Nicolas Anelka, où déjà Nico racontait que c'était pas les propos qui étaient tenus à ce moment-là, et Patrice Evra.
Il y a aussi son documentaire que vous pouvez retrouver sur.
Et donc du coup leur version de ne jamais s'être excusé, c'est quoi alors
pour l'équipe?
Ouais.
Ah, mais parce que pour eux, ils maintiennent mordicus pour certains que c'est les propos.
Donc tous les gens qui est Evra à côté, Anelka, Domenech, tout le monde dit c'est pas ça, mais eux pour
il y
eux,
en a certains pour qui ils estiment qu'ils ont bien fait leur travail journalistique, les investigations, que tout ce qu'ils ont recoupé. Et attention, nous on reconnaît que ce qui est à l'intérieur du journal est un travail journalistique de premier plan. Ils ont très bien fait leur travail.
On parle de la une,
de la une effectivement. Je pense qu'ils sont à minima. Certains reconnaissent qu'effectivement c'était un peu du sensationnel.
La une, c'est à Paris qu'elle est décidée, la une. Et oui, on voit François Morinière, mais il y a Fabrice Jouot qui décide, le directeur de la une, et qui a, alors il s'est tâté, je le sais, je le connais depuis longtemps, hein. Moi, j'étais journaliste dans le groupe L'Équipe il y a 26 ans. Ouais. Fabrice en était le rédacteur en chef de la rubrique foot, et puis il est directeur de l'équipe au moment du scandale en 2010. Il décide de faire cette une en pensant que, c'est les propos qui ont été, prononcé par Nicolas Anelka. Alors, il fait une erreur monumentale. J'aurais bien aimé le voir dans le domaine.
François, quand même, il se dit quand même, c'est des grands journalistes. Je connais pas cette personne, mais ça doit être des grands journalistes, des grandes carrières, etc. Pour être à ce poste-là, il se dit pas, mais si c'est pas vrai, il se passe quoi en fait? Si c'est pas vrai?
Ça va très vite parce qu'il n'y a pas que l'équipe qui a l'info. Donc, c'est la course à l'échalote, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence effrénée à ce moment-là qui va durer 24 heures entre certains médias, dont RMC d'ailleurs. Il y a Marc Benoît qui a l'info.
Marc Benoît qui a plusieurs sons de cloche dans le vestiaire. C'est pour ça que RMC ne sort pas d'info à ce moment-là, parce que c'est ce qui est ressorti, c'est que dans le vestiaire, entendre des choses différentes.
RMC, InfoSport, ont l'info, mais ils vont mettre plus de temps pour la vérifier. C'est l'équipe qui va dégainer en premier.
J'ai envie de rectifier. Ce qui dégaine l'information en premier, c'est le Canal Football Club la veille par Raphaël Domenech. C'est lui qui en parle le premier, sans parler de cette fameuse.
Mais c'était pas un scoop.
C'était pas. Je pense que Raphaël serait pas d'accord avec toi.
Oui, il serait pas d'accord avec moi. Mais bon.
Non, mais il parle pas des insultes en fait.
Il raconte assez bien ce qui se passe dans les vestiaires, sans pour autant dire que ce sont les propos.
Moi, François, j'ai une question pour toi directement. En tant que chef de presse, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, mon rôle, c'est d'organiser un démenti? Si ce qu'il y a dans l'équipe, ce n'est pas ce qui a été prononcé dans le vestiaire, est-ce que c'est pas à moi de faire le lien entre la presse et les joueurs à ce moment-là? Est-ce que c'est pas à moi d'aller convaincre tout le monde?
Non.
Pourquoi?
Pour une bonne et simple raison, c'est que faire un démenti sur la une en disant il y a eu une insulte. Alors l'insulte, on va pas discuter ici de. En plus, il y a des gens qui nous écoutent.
Propos n'ont pas été tenus dans le vestiaire de l'équipe de France.
Moi, mon problème, et le problème de n'importe qui bosse dans un groupe comme ça, l'info est vraie. Il y a eu une altercation. Que ce soit fils de pute, enculé, ton équipe de merde, le problème il est là. Donc il y a une sanction à prendre contre le joueur. Si tu dis seulement la une est fausse. Mais en revanche, oui, il y a eu une altercation. On est en une Coupe du Monde. On est une des équipes les plus médiatisées.
Mais
avec
quelle
un des
altercation
joueurs les plus exposés.
Est-ce qu'il y a eu plus que fait là tout seul ton équipe de merde? Est-ce qu'il y a eu plus que ça?
De tout ce qui a été regroupé pendant notre investigation, non. Il n'y a pas eu plus que ça.
Excusez-moi, là, ça fait 5 minutes que je vous entends.
Nicolas Anelka n'a jamais démenti qu'il a.
Il n'a pas tenu. Excusez-moi. Stéphane, toi qui as entendu, qui a parlé à tous les mecs, et François, toi qui étais là, et moi, et à ceux que j'ai demandé la même chose. On est en train de parler depuis 5 minutes. Il y a eu une engueulade dans le vestiaire avec un type qui dit qu'est-ce que tu fous, t'es mal placé sur le terrain et tout, machin. Hein. Fais-la tout seul ton équipe de merde. Ce qui ressort le lendemain, c'est va te faire enculer, c'est le fils de pute. Là, on n'est plus dans l'exagération, on est dans l'invention. Donc, quand on me parle d'altercation, quand on dit c'était chaud, c'était ceci, que ça se termine au tribunal, mais est-ce qu'il y a eu plus que cette phrase, fais-la tout seul ton équipe de merde? S'il n'y a pas eu plus que ça, on est en train de parler dans le vide et pour rien. On est en train de parler d'une invention, d'un mensonge vendu.
Il dit je me souviens de ça.
Donc le seul sujet, c'est celui d'une invention, d'une manipulation d'un journal, d'un quotidien français, manipulé et complice du sélectionneur de l'équipe de France et du président de la fédération de l'époque qui ont confirmé ces propos. Voilà.
Il y a quand même des sources hein, qui l'ont balancé à Damien Degore et Raphaël Raymond, qui sont les deux limiers de l'équipe qui sortent. Qui
oui, mais, bah, oui, sont donc des gens, sont donc des gens qui ont menti, sont des gens qui ont inventé, ou alors peut-être que les gens de l'équipe ont juste inventé. Peut-être qu'ils l'ont inventé parce qu'ils ont trouvé ça bien.
Daniel, c'est juste moi, si je me place, alors je n'ai jamais.
Qui viennent nous l'expliquer ces années après.
Ça, moi, je peux pas croire qu'ils aient inventé. Non, je peux pas croire qu'ils sont peut-être fait avoir par des sources, ils sont peut-être manipulés. Inventé sciemment, non.
Je rappelle quand même qu'il y a un gars derrière, en fait. Il y a un humain derrière. C'est pas genre, je l'ai entendu. Je suis désolé, moi. Arrête.
Moi, je suis d'accord avec Kevin.
Je suis désolé, François. Mais quand tu me dis que l'info, elle est vraie, l'info, elle est fausse, en fait. Elle est fausse. Il y a une altercation.
Qu'est-ce qui est vrai, François? Qu'est-ce qui est vrai?
Il y a 2 millions d'altercations dans les vestiaires de foot et en équipe de
foot. Qu'est-ce qui est vrai, François? Qu'est-ce qui est vrai?
Il y a des altercations et j'ai entendu 1000 joueurs dire dans leur barbe, vas-y, tu me saoules avec ton équipe de merde. Mais j'ai jamais entendu un mec dire, va te faire enculer, fils de pute. Je l'ai jamais entendu. Bon. Et donc, ça n'a rien à voir.
Détends-toi.
Mais non, moi, je me place en tant que joueur. Si je suis en tant que joueur, je suis autant offusqué.
François, qu'est-ce qui est vrai? Moi, je comprends la colère de Kevin. Tu dis, c'est vrai, mais qu'est-ce qui est vrai?
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une altercation, ce que Nicolas me confirme le lendemain matin.
Mais une altercation, si c'est fait là tout seul ton équipe, il y a une vraie différence avec la une de l'équipe, bon sang.
Je continue.
Non, il y a une insulte quand même.
Nicolas et moi, on se voit un peu par hasard, parce que n'écoutant que leur courage, le staff me demande d'aller voir Nicolas le samedi matin, donc juste après le petit-déj, je pense que je suis la première personne qui débarque dans sa chambre, et Nicolas, je le raconte ça il y a 12 ans, il me dit jamais, mais j'ai jamais insulté le coach.
Et ben alors, tout est là, donc tout est dit, stop.
J'ai pas exactement dit ça, mais je lui ai dit d'aller se faire foutre, lui, son équipe de merde.
Donc, voilà. Donc là, on est très loin des propos, de l'équipe, c'est tout. Ça, voilà. On est à des années-lumière de ça.
Une de l'équipe.
Alors, je me permets de m'excuser pour toutes les insultes diffuses, hein. Malheureusement, on cite, donc c'est difficile.
En tout cas, tout ça pour dire que moi, si ça m'agace.
Surtout qu'il y a un passé entre un journaliste de l'équipe et Anelka. Un passé, à l'époque du PSG.
Daniel, c'est un procès d'intention de faire ce raccourci vis-à-vis du professionnalisme des gens.
Oui, mais je m'inscris en faux aussi là-dessus parce qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup enquêté pour voir s'il y avait un parallèle entre cette altercation entre ce journaliste et Nicolas Anelka.
Si vous le dites, alors y a pas de problème.
Et pour nous, c'est absolument pas au cœur du sujet. On a enquêté. Tarago n'est en rien dans la publication de cette.
Il décide pas de la une. Hein, alors, c'est pas Tarago.
Très bien. Bah alors, ok. Bah je retire.
C'est Fabrice Jouot et François Rignard qui décident de la une.
Nouvelle interruption. J'ai pas le choix.
Encore.
Et on revient très vite. Il y a un truc dont on n'a pas parlé encore, c'est la journée de la grève et tout l'emballement médiatique qu'il y a eu autour de l'événement.
Toute mon émotion. Quand je me place en tant que joueur, je comprends.
Mais t'as le droit d'avoir ton émotion, Kevin. Il n'y a pas de souci. C'est la peur.
Mais il y a un truc important à pouvoir redire, à recontextualiser par rapport à pourquoi Raymond ne défend pas Nico Anelka. Par rapport à ces mots-là,
c'est un teasing magnifique. À tout de suite pour l'entendre.
RMC, l'afterfoot.
Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Kevin Diaz et notre spécial Naïsna qui continue avec François Manardo, ancien chef de presse des Bleus et le producteur du doc Netflix, coproducteur Stéphane Kamga qui est avec nous sur RMC donc dans l'after. Alors on a beaucoup parlé de l'épisode des insultes à la mi-temps de France-Mexique en 2010. Allons sur la suite donc et ce qui va amener à cet emballement médiatique complètement fou. Donc il y a la une de l'équipe. Et le lendemain, il y a donc ce fameux entraînement ouvert au public. Ça d'ailleurs, moi, j'avais oublié que tout était fermé et que c'était le seul entraînement ouvert au public.
Non, alors non.
C'est dans le doc, ça.
Oui, mais c'est Sébastien Tarago qui a des problèmes de mémoire, lui aussi.
Tout le monde a des problèmes de mémoire,
mais
François.
Oui, mais tu sais,
ça pose des problèmes, ça, quand même.
Mais oui, ça... Bon, quelques petits problèmes. C'est-à-dire que tout n'était pas fermé. Je ne vais pas refaire l'histoire parce que c'est trop long ici. Nous, l'équipe de France, la fédération s'est faite avoir, pour rester poli, par le directeur de l'hôtel où nous logions. Nous avions payé l'exclusivité de l'hôtel, d'avoir l'hôtel réservé que pour l'équipe de France.
Très belle hôtel.
Et on se fait avoir parce que le terrain d'entraînement qui est le nôtre n'est pas censé être celui-là. On doit l'utiliser que pour les huis clos. Il y a des travaux à prévoir parce que c'est un terrain de cricket au départ. Les travaux sont exécutés, mais mal exécutés, et ils ne rencontrent pas les normes de sécurité pour accueillir du public. On ne peut accueillir que les médias. Tous les entraînements sont ouverts, comme pour les 32 sélections en Coupe du Monde, 48 dans quelques jours, c'est-à-dire qu'on laisse un quart d'heure ouvert à la presse. tous les entraînements. On en fait un ou deux à huis clos. Huis clos, c'est complètement fermé. Pour les gens qui connaissent pas trop bien le jargon logistique, média et football. Et cet entraînement du 20 juin, alors ça c'est vraiment le hasard ou une leçon divine, c'est que on a une dérogation, c'est la deuxième fois seulement qu'on obtient une dérogation pour pouvoir accueillir du public sans que ces normes de sécurité soient respectées. Mmh. Les joueurs ne le savent pas. Ils ont prévu de faire la grève,
oui,
mais de pas venir sur le site d'entraînement. Quand ils apprennent, et ça c'est dans le documentaire de Nico,
ça qui est fou,
Anelka, quand ils apprennent qu'il y a du public, ils disent non mais on va pas snober, c'est que la deuxième fois qu'il y a des gens,
on
en plus ce jour-là, on est en plein hiver en Afrique du Sud, à Naïsna, c'est comme si on était en Bretagne. Il y a un grand soleil, ils disent non, on va pas paraître en plus pour des gens qui snoberont les gens de la ville, on vient, on signe les autographes, et puis on se casse. Mais tout était ouvert un quart d'heure à la presse, mais on ne pouvait pas accueillir du public. Ça, et on aurait bien voulu, crois-moi.
C'est bien expliqué ça.
Et alors, ce qui est bien expliqué aussi, c'est qu'à ce moment-là, c'est l'essor aussi des chaînes d'infos en continu, oui, et que tout se passe en direct pour tout le monde. Les différentes étapes, les joueurs qui sortent en basket, qui décident de ne pas s'entraîner, Robert Duverne qui s'embrouille, le préparateur physique avec Patrice Evra, les joueurs qui font grève, Jean-Louis Valentin,
oui,
qui était son poste déjà,
qui démissionne.
Après la montée du faux plat, là, un peu essoufflé au moment d'annoncer sa démission.
Il y a qui ont dit mais c'est vous la taupe, monsieur Valentin.
Exactement, il y a la question
non,
à la fin.
Certainement pas.
Parce qu'à ce moment-là, on est dans le contexte de chercher la taupe. Il y a eu
déjà eu
Patrice Evra qui.
Mais t'oublies le téléfoot, on n'en parle pas du téléfoot parce que c'est avant l'entraînement. Pardon, je fais pas ton boulot à ta place.
Oh bah si, tiens, allons-y. C'est le matin, le téléfoot.
C'est ça, c'est le matin. C'est parce qu'on est dimanche.
Voilà, Franck Ribéry qui s'invite.
Et revoir la scène, ça fait quelque chose parce qu'on en a énormément. On a même parlé évidemment de ce téléfoot qui avait scotché tout le monde avec l'intervention de Ribéry pas prévue, avec David Astorga qui est très bon d'ailleurs, David Astorga, ouais, à ce moment-là, la présentation de téléfoot, ouais, quand Ribéry arrive. Et je vais vous dire, c'est marrant parce que à l'époque, dans le contexte, j'avais trouvé Ribéry,
je sais pas ce que tu vas dire, mais je suis d'accord,
mais complètement à la ramasse et tout. Mais en fait, revoir le moment, je vois un homme qui est pas bien, qui est perdu. Mais je le trouve finalement troublant de sincérité.
Oui, mais Daniel, pourquoi vous avez cette vision différente? Parce qu'on s'est mis dans la tête que les joueurs vivaient une injustice parce que les mots mis en une ne sont pas les mots prononcés. Et ça, il nous a fallu des années pour intégrer ça. À l'époque,
oui, mais attention, parce qu'on va venir. Attention, on va venir dans un instant sur la grève. Moi, tout ce qui s'est passé et la grève et la façon dont les Bleus n'ont finalement pas senti qu'ils étaient là pour l'équipe de France, ça, moi, je continuerai de leur en vouloir tout le temps.
Oui, non, mais d'accord, Daniel.
Ils ne devaient pas le faire. Ça, c'était inadmissible.
Ça, tu as raison.
Maintenant, avec le recul, la sincérité de Ribéry à ce moment-là, moi maintenant, quand je le revois là, moi, elle me touche.
Alors qu'à l'époque,
elle nous mettait en colère. À l'époque, elle nous mettait en colère. Il faut dire la vérité.
T'as raison, Daniel.
À l'époque, dans le tourbillon de l'époque, la France entière était en colère. Aujourd'hui,
ils n'ont pas parlé tout de suite après parce qu'ils ont bien vu qu'ils étaient dans un tourbillon où ils devaient quitter le pays parce qu'ils n'étaient pas audibles. Mais il y a quand même quelque chose. C'est que, comme dans toutes les catastrophes, en fait, dans cette catastrophe, c'est une succession d'événements de mauvaise communication qui en fait, qui fait les protagonistes à prendre les pires décisions. Mais c'est pas juste les mecs qui se sont réveillés un matin parce que c'est des caïds immatures et qu'ils ont décidé de faire la grève ou de faire des choses qui leur ont une succession. Et la grève et Ribéry qui est plein de sincérité, qui est au bord des larmes. Et d'ailleurs, même Patrice Evra te dit qu'après, il a pleuré auprès de ses coéquipiers.
Attends, je voudrais juste, Kevin, puisqu'on est sur Ribéry à Téléfoot, un petit extrait où l'histoire d'amour Domenech Manardo et Omax.
Merci. Moi, j'étais du côté où je le voyais arriver. Et il discutait avec Manardo. Et Manardo le fait rentrer. Ça, c'est un attaché de presse. Le mec, il y a une bombe atomique qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous l'envoie, gentiment.
C'est ça, un attaché de presse?
C'est bon, ça. Non, mais ça, moi, je l'ai découvert aussi. Comme disait Stéphane, on n'a rien su de ce que les autres avaient dit, avaient pu dire. Moi, je le découvre. Ça m'a fait marrer parce que... rétrospectivement, s'il avait Raymond comme s'il avait consulté les astres, Il aurait su qu'il y avait une grève dans l'après-midi, je pense. Hein, ça lui aurait permis, au moins, à l'astrologiste.
Il s'en doutait, en tout cas.
Peut-être. Oui, non, mais là, il aurait carrément su. Oui. Donc, si on sait qu'il y a la grève dans l'après-midi, effectivement, Franck, tu vas pas lui dire d'aller sur le plateau. Quand il arrive sur le plateau, personne n'est au courant de ce qui va se passer dans l'après-midi, à part les joueurs. Il y a quelques personnes à Paris aussi.
Permets-moi sur ce point, Domenech récemment a participé à une émission où je suis allé quelques semaines plus tard, là, qui s'appelle Offense, sur les réseaux, sur YouTube, et il donne une autre version, c'est-à-dire s'il s'arrange vraiment avec la vérité. Et lui, il raconte à ce moment-là, je l'ai vu tout à l'heure, que le matin, au petit-déj, il avait déjà compris qu'il y aurait quelque chose. Il lâche même le mot de grève. Donc, il dit hop, et puis en fait, finalement, il s'y attendait le matin. Il dit, mais ils vont quand même pas me faire la grève, ces cons-là.
Je sais pas pour Offense, si on n'y était pas sur Offense, mais effectivement, nous, à chaque fois qu'il nous parle, il nous dit depuis que le matin, il sent quelque chose. Il sait pas quoi.
Il sait pas quoi, mais il se dit, ils vont le faire quelque chose.
Il sait pas
quoi.
Mais quand Franck arrive, il dit même qu'il va voir.
Quand Franck arrive, donc Franck, il fait.
Mais Franck, il fallait pas l'empêcher d'y aller à Téléfoot.
Mais une com maîtrisée, c'est attends, pas de le bloquer là.
Attends, je reconstitue quand même les faits et que les faits, Monsieur Tour, c'est que lorsque Franck débarque, il débarque sur le plateau. Le plateau, il n'est pas accessible quand tu rentres directement dans le club de golf de l'hôtel. C'est-à-dire que il arrive dans notre dos. Et il est au téléphone avec Jean-Pierre Bernès. Mmh. Donc moi, on me fait, c'est Sylvain Mignonat, TF1, qui me dit, il y a Franck Ribéry, il est là. Et il est là où ? Ben, il est juste derrière toi. Et si moi, je le sors alors que Franck me dit, quand il raccroche avec Bernès, moi, je vais absolument m'excuser, j'en peux plus, c'est trop dur, ce qu'on a fait, on est nul depuis le départ. Donc moi, je trouve que l'intention est bonne. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'après-midi. Si tu veux aller t'excuser, vas-y. Oui. Je rajoute juste un détail aussi. Par contrat, et moi je suis aussi là pour faire respecter les contrats, on doit 2 joueurs à TF1 pour l'émission de Téléfoot. Et par contrat, TF1 n'est pas que sponsor de l'équipe de France, il y a aussi un contrat éditorial. Et moi, j'appelle Noël Le Graët avant l'émission, et j'appelle aussi Jérôme Saporito, et j'ouvre très vite aussi la parenthèse, parce que c'est Jérôme Saporito qui a la paternité de ce documentaire, avant que il n'ait pas plus allé au bout et les transmise à nos amis ici présents, avec Stéphane Kamga. Mais j'appelle Jérôme, qui est le directeur éditorial de la prod de TF1, en lui disant, Jérôme, il n'y aura pas de joueurs, on est dans des circonstances exceptionnelles. Et je dis à Noël Le Graët, qui est le trésorier à l'époque de la Fédé, président, c'est pas le président de la Fédé, mais on s'est compris. Lui qui s'occupe des contrats et c'est lui qui.
Il faudra parler en sous-main de Bernès et Deschamps aussi.
Il y aura que le sélectionneur. Donc j'avertis tout le monde. Quand Franck arrive, moi, il m'enlève une énorme épine du pied et je trouve qu'en plus le discours qu'il a envie de tenir, et moi, il est déjà larmes aux yeux, Franck, quand il raccroche avec Bernès. J'ai dit, ok, vas-y. Donc Raymond, il a beau jeu de dire ça rétrospectivement. C'est une bombe. Oui, c'est une bombe si tu sais ce qui va se passer dans l'après-midi. Sauf que moi, j'ai pas de boule de cristal.
Alors, avant de basculer sur le communiqué, la fin de la grève, on a Kim qui patiente au 32-16 et qui veut discuter de ce Doc Naïsna avec nous sur RMC dans l'after. Salut Kim.
Salut Jean-Louis, bonjour à tous. Bonsoir à tous.
Il t'a plu ce Doc ?
Ouais, il m'a plu. Désolé, j'ai un peu la voix cassée. Il m'a plu, il m'a fait penser d'abord à un truc. C'est le paradoxe un peu ce matin. C'est que moi, en 2006, j'ai 15 ans, en fait, et je pleure la finale contre l'Italie. Et en fait, aujourd'hui, après avoir eu le doc, je me surprends limite à me dire qu'en fait, une victoire, ça aurait fait valider un fonctionnement toxique. Et en fait, c'est assez violent à admettre, mais je me suis dit qu'en fait, même si j'ai soutenu l'équipe de France toute ma vie, en fait, maintenant, avec le recul, je préfère en fait avoir perdu cette finale en 2006. Donc ça, c'est la première réflexion que je me suis faite après avoir vu le doc. La deuxième, c'est que moi, je vous écoute depuis toujours, et je me rappelle très bien que déjà, à l'époque, à l'after, on sentait que vous étiez parmi les seuls à vraiment raconter ce qui se passait en coulisses et qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Donc bravo à vous pour ça déjà. Et ça m'a rappelé un peu ces belles années qu'on a vécues en 2008 avec toute l'équipe. Et la dernière chose, c'est que Domenech, pour moi, il jouait toujours le rôle du type détestable face aux médias, mais je pensais que c'était pour protéger son groupe. Et en fait, là, on se rend compte qu'en fait, c'est un mépris vis-à-vis de tout le monde et notamment de ses propres joueurs. Et pour moi, ça change tout parce que même si la mutinerie elle reste indéfendable, je pense que ces joueurs étaient complètement abandonnés par un management qui était complètement défaillant. Et moi, la question que je me pose maintenant, c'est comment ça se fait que Domenech continue à aujourd'hui être une voix médiatique dans le foot français après ça.
Bon, une voix médiatique, tout ça, tu peux rappeler où est-ce qu'il est une voix médiatique ?
Justement, c'était la suite que je voulais donner. Et est-ce qu'on a vraiment tout compris à ce qui s'est passé autour de cette équipe, et notamment la taupe ? Et tu auras compris, Daniel, que mes deux questions sont corrélées.
Alors, je sais pas, est-ce que quelqu'un veut rebondir à ce qu'a dit Kim?
C'est quoi la question?
Bah, il n'y a pas vraiment de question. C'est un constat que fait Kim sur la suite pour Domenech. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il devrait encore.
Ce qui est certain sur.
Non, mais c'est quand même troublant. C'est quand même troublant qu'il soit que le seul média où il ait pu aller travailler, c'est l'équipe, qui soi-disant l'a mis dans la merde en 2010 en balançant cette une-là. Je sais pas.
Bon. Non mais de toute façon, moi ça je ne jugerai pas parce que je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre quand tu regardes le doc et puis quand tu as suivi l'équipe de France de toute cette période, c'est que Raymond Domenech, contrairement à Didier Deschamps qui quand même on peut aimer ou pas aimer ses compos, mais c'est un grand manager, c'est un très bon sélectionneur. Raymond Domenech,
c'est sûr.
Et Raymond Domenech, il a fait une finale de Coupe du Monde comme le disait notre auditeur. Mais honnêtement, je suis désolé de le dire, mais il est nul en fait. Il est nul dans le management. Oui, il y a même 15 ans après, il n'a même pas l'auto-analyse nécessaire pour se dire ce qu'il aurait pu faire de mieux ou pas. Et c'est ça qui est quand même un peu triste.
Moi, ce que je trouve fou dans le doc, c'est qu'il ne se met jamais à la place des joueurs. Il n'a empathie.
L'empathie,
c'est la première qualité du manager.
C'est vrai que c'est une des choses sur lesquelles moi, personnellement, et c'est à titre personnel, j'ai été un peu surpris, c'est que nous, on a donné le strapontin pour pouvoir faire son mea culpa et donner ses regrets. Pourtant nous qu'on a échangé avant le doc, c'était l'une de ses envies de pouvoir donner sa part de vérité, mais aussi de pouvoir donner les regrets qu'il avait pu avoir par rapport à sa gestion. Il est clair et je pense qu'il a établi qu'il y a eu une vraie défaillance de leadership, pas que de lui.
Ah non, le président de la
pas que de lui, ça il faut le
pauvre Scalette, il est complètement dépassé.
C'était pas évident d'être dans cette situation. Il a pas forcément eu toutes les armes, c'est pas que j'essaie de le défendre, mais il a pas forcément eu toutes les armes quand il est parti dans cette conquête de cette Coupe du monde. On lui dit clairement qu'il va pas être reconduit. Les joueurs ne sont pas vraiment d'adoupas à son idée, à sa stratégie. Je pense que c'est même de là que vient
C'est quoi son idée? C'est la question aussi.
Justement, nous les joueurs, on a dit qu'ils comprenaient pas forcément ce qu'ils voulaient comme schéma.
Mais oui, il y avait toutes les comment dire les incompréhensions, voire limite les disputes sur est-ce qu'on fait du marquage individuel ou marquage en zone sur les corners. Est-ce que en fait ils étaient d'accord sur rien, ni sur la tactique. C'était pas l'entraîneur de cette équipe de France. Même en 2006, on le sait que ça ne l'était pas.
Alors, François Clairefontaine, non rapidement, oui, à Clairefontaine, mais je leur racontais ça. J'ai assisté à des séances où les joueurs trophée en disant coach on comprend pas.
Ouais, c'est ça, c'est
on comprend pas qu'est-ce que sur les coups de pied arrêtés principalement, on comprend pas ce que vous attendez de nous.
Alors il y a encore des trucs politiques quand même.
Et la réponse la réponse c'était démerdez-vous.
Oui. Kevin, ne t'inquiète pas.
Et il y a le fait que Bernès et Deschamps étaient au courant pour la grève hein.
Alors bah tiens, ça t'y reviens dans une seconde. On finit sur la grève Laurent parce qu'il y a aussi le communiqué dont on n'a pas parlé. La recherche de la taupe. Il y a un truc dans le documentaire quand même important puisqu'il y a une taupe désignée hein, à la fin du doc. Et puis effectivement la récupération politique. On a encore une demi-heure à parler de Naïsna dans l'after. On remercie Kim d'être venu au 32-16. À tout de suite.
RMC, l'after foot.
Jean-Louis Tour.
23h37, l'after continue avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo, notre spécial Naïsna jusqu'à minuit avec François Manardo et le coproducteur du doc sur Netflix, Stéphane Kamga qui est avec nous. Alors il y a encore des aspects à aborder, bien sûr. Je rappelle encore une fois quand même que toutes les personnes incriminées, Raymond Domenech en tête, sont les bienvenus sur RMC pour se défendre, pour s'expliquer. Après tout ce qu'on dit depuis 22h, c'est la moindre des choses.
Je serais ravi de revenir s'il décide de venir sur le plateau pour pouvoir échanger avec eux avec grand plaisir.
On a eu un message de Nicolas Nelka depuis le début de l'after qui nous dit pourquoi il n'a pas parlé, pourquoi il a mis autant de temps à parler. En 2010, les Français n'étaient pas prêts à entendre la vérité. En 2026, ils l'ont, cette vérité. Donc voilà pourquoi ils n'ont pas voulu s'exprimer, tous ces joueurs, à ce moment-là.
C'est à peu près ce qu'on disait tout à l'heure.
Alors, il y a encore des trucs dont on n'a pas parlé. Donc, la grève, le sentiment d'injustice, les joueurs qui veulent partir. Et là, j'avais des détails déjà que Patrice Evra avait déjà un peu raconté, notamment Raymond Domenech qui prend les clés du bus, parce que le bus, c'est ça aussi qui a provoqué la folie, c'est que le bus, les joueurs décident de repartir, mais le bus ne part pas. Et reste un long moment, et c'est ce qui provoque cette attente l'après-midi. Parce que donc Domenech prend les clés.
Bah, est-ce que en termes de logistique, c'est pas des champions les joueurs.
Bah, Domenech non plus.
Non mais Mais ils n'ont pas pensé une seule seconde qu'il n'y en avait pas un qui avait son permis pour conduire le bus et qu'il fallait compter sur le chauffeur. Et Raymond demande à Mohamed Senadji, qui est le responsable de la sécurité, qu'il prenne les clés du chauffeur. Donc le chauffeur, il était là comme un con, oui, avec son volant.
Oui, oui, Jacobus, effectivement, qui était le chauffeur de ce bus.
Comment s'appelait-il ?
Jacobus.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
C'est une blague. Jacobus.
Oui.
Ah, il s'appelait Jacobus,
vraiment. C'est pas possible, ça.
C'est l'une des personnes.
C'est incroyable.
Donc, finalement,
charmante de Laurent.
Le bus part, mais avant, il y a l'épisode du communiqué. Donc ça, il en est question aussi dans le doc, puisque donc on comprend, c'est là où Domenech a cette fameuse phrase, j'ai récupéré un papier, on m'a dit que ça venait des joueurs, au début j'y croyais pas parce qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe. Finalement, il va lire, mais c'est toi François qui aurais dû le lire. Enfin, en tout cas, les joueurs te demandent d'abord à toi.
Non, Patrice me demande de le lire. Et donc moi, quand je comprends que le communiqué, il est contre l'équipe de France, contre la fédération, donc qui est accessoirement mon employeur, je refuse de le lire. Et je vais m'obstiner à refuser de le lire.
Tu l'as gardé quand même.
Parce que, alors je le récupère. Parce qu'en fait, il passe dans quelques mains. Et à la fin, il se trouve que c'est moi qui le récupère. Donc c'est une partie de ma vie, comme c'est une partie de la vie de Raymond, des joueurs, de Robert Duverne, etc. Bon, il se trouve que c'est moi qui l'ai. Si ça en emmerde quelques-uns, comme je l'ai entendu sur Antenne sans flamme tout à l'heure.
Ah, Jean-Michel Larquet est un peu remonté.
C'est leur problème.
Moi j'ai une question pour Stéphane là-dessus. Oui. On est d'accord que là, Raymond Domenech, qui joue un peu la comédie, non? Sur la fin du doc.
Ah non, non, alors. Vraiment,
c'est très spontané là, quand ils découvrent que c'est François qui a gardé le communiqué. Non, je pense que les gens ils vont aller le regarder quand même. Hein. Ça va rien changer.
Non, mais effectivement, il faut laisser peut-être le soin aux gens de le découvrir dans le doc. Mais ce que je peux dire de Raymond par rapport à ce passage, et c'est un échange même qu'il a avec moi, si vous voulez tout savoir.
D'accord, ok.
On discute.
Ok.
Et il est vraiment étonné. Il ne sait pas qu'il a. Il ne sait vraiment pas qu'il a, et son expression, elle vient du plus profond de ses entrailles.
On a dit qu'il a pas fait de mea culpa, mais faut quand même dire que il dit qu'il aurait dû laisser partir le bus.
Oui, de pas
provoquer. Et il dit aussi qu'il aurait, en tout cas, après avoir parlé avec sa fille, et ça, c'est un moment assez touchant, où il dit que là, c'est là où il se rend compte, en parlant avec sa fille, qu'il aurait sûrement pas dû lire le papier non plus.
C'est ça.
Donc, ça, c'est les côtés aussi où tu vois quand même que Domenech, ça reste un humain, et ça reste aussi quelqu'un qui a fait des erreurs.
Oui, mais l'humain, son naturel, Kevin, il reprend tout de suite du poil de la veste, parce que le lendemain, il censure Patevra, parce qu'il veut absolument être le seul à pouvoir dire qu'il se dédouane complètement de ce qu'il a fait la veille.
Oui. Parce que finalement, à ce moment-là, la grève, certes, on a tous compris que Domenech était mauvais, mais la grève fait basculer l'histoire dans une autre dimension.
Totalement.
C'est les enfants capricieux qui deviennent des millionnaires grévistes, des sales mecs, des racailles, qui ne comprennent pas ce que c'est que de jouer pour l'équipe de France, de porter le maillot bleu. Ça prend cette dimension-là. Mmh. N'oublions pas que derrière cette histoire, on a des joueurs qui ont eu des vies brisées.
Totalement.
Gourcuff, il y a plein de joueurs qu'on n'a jamais revus réellement à un bon niveau, qui n'ont jamais encaissé toute cette histoire-là. En fait, suite la grève, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de joueurs, tous d'ailleurs, qui ont dit qu'ils avaient reçu des appels de proches, de familles, qui leur disaient « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? C'est un scandale, ne faites jamais un truc pareil. » Il y a une unanimité, normale d'ailleurs, à ne pas comprendre ce mouvement-là. Eux, les joueurs, ont perdu pied, d'accord. Tout le monde a perdu pied à Naïsna. Mais tous les Français ici, et même la famille des joueurs, leur reprochent de faire ce truc-là. Et là, l'affaire bascule, la dimension politique qui emmènera Thierry Henry chez Sarko, l'intervention de Roselyne Bachelot. Là, on est passé dans toute autre chose.
Mais ils le disent.
Coupé du monde dans des... Enfin, je vous souhaite de jamais...
Ça rend fou d'être coupé du monde comme ça, c'est ça que tu veux dire?
Totalement.
Bah ouais, t'as pas vu Shining?
C'est un psychodrame. Moi, si je prends la rédaction
de RMC... Story aussi.
Si je prends la rédaction de RMC, que je vous isole pendant 5 semaines, les gars, avec sieste, repas, et aller taper un peu au ballon, vous allez voir, vous allez péter un plomb au bout d'un moment. Hein.
C'est notre Coupe du Monde aux États-Unis que tu décris. Là. Nous, ça va, on vit plutôt bien. Bon courage.
Non, mais si c'est on joue avec Kevin, ça va. Hein. Non, c'est l'électorat de son pied gauche.
Non, mais c'est important ce que tu dis, Daniel, par rapport à la grève. Tous les joueurs, effectivement, ils ont pris conscience de ce qu'ils avaient fait une fois qu'ils sont rentrés à l'hôtel. Mmh. Quand les téléphones ont commencé à sonner, William Gallas nous le dit, sa mère le pourrit.
Ouais.
Sa mère le pourrit, ils se prennent un peu conscience. Et il faut aussi remettre les choses dans les contextes. C'est vrai que oui, c'est facile, hein, après coup, de dire ils auraient pu faire ceci. Ils ont 22 ans.
Oui, bien sûr.
Ils ont 22 ans.
Alors, ce qu'il y a dans le doc aussi, enfin, c'est ça, une première piste solide que j'avais jamais entendue.
Non, mais ça, c'est pas une excuse. Hein. Ils sont assez adultes pour jouer en équipe de France et prendre les salaires qui vont avec. Je ne la reçois pas. Mais en tout cas, il y a des hommes qui sont plus âgés que 22 ans, genre Thierry Henry, qui sont restés sagement calés au fond du bus.
Oui, mais Thierry Henry, il est plus.
Et qui sont allés voir Sarko pour on ne sait quel motif. Tu l'as su, ça t'a demandé.
Ils ont été convoqués. Il a été convoqué par Sarko.
Ben d'accord, mais pour
ça reste entre eux. Je ne vais pas vous dire que je
sais. Il est allé et puis quoi en fait. Il s'est passé quoi.
C'est entre deux. Je pense que le jour où Thierry décidera d'en parler, il le fera savoir. Ouais. Nous, on n'a pas su. Et...
Il a proposé un
encore
en
une belle preuve d'opportunisme. Encore une belle preuve d'opportunisme de Nicolas Sarkozy qui a décidément tout raté dans sa carrière politique et notamment ça aussi.
On va se garder les dernières minutes pour la suite, la récupération politique et ce qui s'est passé, les sanctions, etc. Ouais. Juste un truc quand même dans le doc. Il y a une piste solide pour la taupe que j'avais jamais entendue. Moi, j'ai toujours entendu qu'il y avait plusieurs personnes, etc.
Mais donc, pas sérieux, cette
le point de départ, ce serait Franck Ribéry. C'est ce que dit Raymond Domenech, à tel point que Ribéry a répondu sur Instagram en disant « Mamma mia, Domenech, je t'aime beaucoup, juste, je garde la vraie histoire pour plus tard. » Donc, c'est un démenti de Ribéry.
Oui, alors, je ne sais pas, démenti, en tout cas, il n'a pas dit que c'est faux. Il dit « Je garde la vérité pour plus tard.
» Il dit « Je garde la vraie histoire. » Sous-entendu,
non, mais Domenech, il a parlé au journaliste de TF1, histoire. Sébastien Bargnaud, à l'époque.
C'est ce qui est revenu, c'est ce qu'on a recoupé de toutes les discussions qu'on a eues.
Et mais vraiment l'altercation, ce qui provoque l'enquête des journalistes de l'équipe derrière.
En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que Franck, mais vraiment dans une discussion assez privée, assez personnelle, mais vraiment sans partir sur un dévoilage de scoop, il a cet échange avec Sébastien, qui je crois est quelqu'un qui est très proche de lui.
Totalement. Ouais.
Et c'est vraiment au détour d'une petite discussion de dire « Ah, ça a été chaud », comme le dit Raymond dans le documentaire. Derrière, Sébastien et tous ses confrères comprennent qu'il y a quelque chose à aller gratter et à aller rechercher. Mais il n'y a pas vraiment de top. Hein.
Est-ce que moi, je le dis, c'est la seule fois où je parle de moi directement, là, si vous me permettez, dans le documentaire, c'est que je dis qu'il n'y a aucune malice dans la démarche de Franck. C'est juste de la connerie.
Oui. Et d'ailleurs, Evra lui pardonne, entre guillemets, s'il y a quelque chose à pardonner tout de suite. Hein, et on l'entend. Oui. La dernière partie de notre spécial Naïsna, c'est dans une seconde. Notamment le double jeu, le double discours de Roselyne Bachelot. C'est assez terrible. C'est dans une seconde. À tout de suite.
RMC, l'After Foot.
Jean Mitour.
23h47, l'After est là. Spécial Naïsna avec Daniel Riolo, Kevin Diaz et nos invités François Manardo et Stéphane Kamga, donc le coproducteur du doc Netflix. Alors, je voulais vous faire écouter donc Roselyne Bachelot, puisque ça aussi c'est très bien raconté, à quel point donc elle arrive en Afrique du Sud, avant le dernier match contre l'Afrique du Sud, elle fait une causerie aux joueurs, un discours. Patrice Evra dit d'ailleurs « Enfin, on a quelqu'un qui croit en nous ».
Elle est envoyée par Sarkozy. Hein.
Bien sûr. Evra dit « Enfin, on a un sélectionneur avec Roselyne Bachelot », puisqu'elle a le discours que les joueurs veulent entendre à ce moment-là, un truc pour les motiver, en disant je suis pas là pour vous juger, un truc comme ça. Certains ont les larmes aux yeux et tout, donc ils se disent super, avec Roselyne Bachelot on est bien soutenu et tout. S'ensuit le retour à Paris et son discours à l'Assemblée nationale.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je ne peux que constater comme vous pour le désastre avec un coach désemparé et sans autorité, une fédération française de football aux abois, une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés.
Elle nous crache dessus, c'est des caïds, des racailles, des joueurs apeurés. Elle a vu ça où ?
C'était, honnêtement, comment tu viens, tu passes du temps avec nous ? On est là, on te respecte. Tu vas à l'Assemblée, tu nous détruis comme ça ? C'est qui les caïds ?
C'était qui, en l'occurrence ?
Oh, j'aime pas beaucoup répondre à cette question. J'ai dit ce que j'avais à dire et tout va bien.
Voilà, Roselyne Bachelot qui était ministre des Sports et qui n'est pas à l'aise du coup.
Mais ce qui est fou en fait, c'est sa dernière phrase. C'est ses derniers mots. Elle a dit, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Elle n'est pas à l'aise avec le double discours. La première, elle dit, je ne veux pas en reparler.
Elle n'est pas à l'aise parce que. Mais elle dit quand même, et tout va bien. Et je reviens sur Nicolas Nelka. Mais tout va bien pour qui ? Tout va pas bien pour les joueurs. Il y en a un qui est extraordinaire dans le doc, Bakary Sagna. Extraordinaire. Il n'a jamais fait de vague dans sa carrière, nulle part où il est passé. C'est quelqu'un de très intelligent qui s'exprime très bien. il a pas été protagoniste, en tout cas pour les gens d'extérieur, mais il est juste, il parle à chaque fois de façon très posée, de façon très équilibrée. Et ce qu'il dit là sur l'extrait, c'est exactement ça. Alors, elle parle très bien devant eux pour après les mettre six pieds sous terre devant l'Assemblée. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on reproche aux politiques.
Après Kevin, le fait qu'elle ne veuille pas,
c'est un truc qui m'a choqué.
Le fait que j'entends ce que tu dis, le double discours et tout. Maintenant, le fait qu'elle ne veuille pas en reparler, ça ne veut pas dire qu'elle regrette tout ce qui a été dit sur l'observation de ce qui s'est passé. Il faut peut-être aussi.
Attention, on comprend pas ce que tu dis, Daniel.
Ouais.
Bah, en fait, le fait qu'elle ne veuille pas en reparler, qu'elle ne veuille pas dire qui étaient les gens qu'elle identifiait comme les leaders face aux.
Moi, ça veut dire qu'elle assume, en fait.
Ah, pour moi, c'est qu'elle regrette justement ses propos.
Non, je suis pas complètement convaincu. Je pense qu'elle ne veut pas remettre de l'huile sur le feu en citant les noms ou en reparlant de ça des années après en disant c'est ces gens-là et tout. Parce que Rodine Bachelot a été, elle en a déjà reparlé plusieurs fois. Et des fois, elle disait, enfin, le peu qu'elle a su, parce qu'elle est arrivée là-bas, elle a été envoyée un peu en dernier moment. Oui, oui. Elle a pris l'avion la nuit, machin, elle arrive. On lui a raconté les trucs et elle a dit bon ben voilà, il y a des clans dans l'équipe. Le sélectionneur, il est dépassé, c'est le bordel. Ça, François, ça, tu le sais mieux que nous, ce à quoi elle voulait vraiment faire référence.
Attends, parce qu'il y a Stephen qui voulait dire un mot juste avant.
Les clans, ils existaient dans cette équipe.
Oui, mais là, de là à parler de caïds immatures face à des enfants apeurés.
Alors, Stephen. Alors, je vais essayer de répondre à Daniel sur deux choses. Alors, les deux principales choses sur lesquelles elle ne se dédouane pas ou elle ne se dévoie pas, c'est que de dire qu'elle assume d'avoir un double discours. Elle se dit, je suis allé voir ces jeunes garçons pour leur donner un vrai discours d'encouragement pour qu'ils puissent faire le dernier match. Mais une fois que c'est fait et qu'ils rentrent, elle n'a aucun problème à les taper sur eux.
Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi.
Non, elle assume.
Elle a été super gentille parce que même les mecs, ils disent, elle était sympa avec nous, elle nous a motivés. Elle en parle un peu comme de gros bébés.
Tous les gens nous disent que. Enfin, on avait un leader devant nous.
Il y avait un leader devant nous qui venait,
qui nous parlait, qui nous faisait comprendre, qui nous donnait envie, qui nous rappelait qu'on avait encore un match et qu'on veut y arriver. Et chose qu'on n'avait pas avec notre sélectionneur.
Ça a pas suffi à gagner le dernier match.
Ça a pas suffi à gagner. Maintenant, effectivement, une fois, malheureusement, ils n'arrivent pas à se qualifier, elle redevient un animal politique et elle est descend. Par contre, à la fin, ce sur quoi elle ne veut pas répondre, c'est sur la question de se dire qui sont les caïds.
C'est juste ça. Il faut quand même contextualiser en disant que c'était aussi une folie politique ce qui se passait à ce moment-là. Le retour des joueurs au Bourget, c'est sous les insultes,
les menaces. N'oublions pas.
Marine Le Pen parle d'un apartheid au sein du vestiaire entre différentes personnes et tout. Donc il y a un fond de racisme aussi derrière.
Les Bachelot ont bien aidé Le Pen là-dessus. Les caïds immatures, voilà, qui ont une référence dans ce pays.
Au niveau des sanctions, Nicolas Nelka prend 18 matchs de suspension.
C'est une blague.
Quand même incroyable pour des propos qu'il n'a pas tenus. Hein. C'est sidérant. Et Daniel, tu avais identifié aussi un ou deux trucs pas forcément mentionnés. Moi, il y a un truc d'ailleurs que je trouve étonnant et qui n'est pas un mot dessus, c'est Eric Abidal qui. Alors déjà, on ne parle pas du tout de lui
qui refuse de jouer.
Et qui refuse de jouer le dernier match. Ça, c'était un.
Non, le truc qu'on n'a pas dit, je ne sais pas si Stéphane a pu en parler avec les gens et tout ça, c'était. On a dit tellement de choses, ça se trouve, on l'a dit. Le fait que Bernès et Deschamps étaient au courant la veille de la grève et tout, on en a parlé, ça, je ne sais même plus, je suis un peu perdu.
On n'en a pas parlé, mais je peux vous répondre dessus. Nous, on a dû.
Vas-y.
Au risque de me répéter, nous, dans ce document, on donne la parole qu'aux gens qui ont bien voulu parler. On ne met pas de propos dans la bouche de qui que ce soit. Ça veut dire que si François Malardo n'était pas là.
C'est Ribéry qui les avait prévenus parce qu'il était avec Bernès à l'époque, non?
Je ne sais pas.
Il y avait plusieurs joueurs.
Mais celui qui l'a dit, c'est peut-être. Donc, ils ont assisté au spectacle.
Mais tu dis, Bernès, ils étaient au courant, Daniel, sous-entendu quoi? Ils savaient qu'il y aurait grève le soir et ils en ont parlé à personne. Ils n'ont pas essayé d'éviter le truc. Qu'est-ce que ça implique qu'ils soient au courant?
De quelle façon aurait-il pu intervenir?
Non, mais Laurent Blanc est au courant aussi, alors que le contrat est déjà signé.
Alors, excuse-moi, l'agent de certains joueurs, puisque certains étaient au courant, puisqu'il y a même un avocat qui a fait la lettre, ce sont quand même des gens responsables. Au moment où eux ont été insultés par la France entière, sont revenus en prenant des œufs sur les bagnoles, ont été traités de tous les noms en rentrant. Excuse-moi, mais si t'es l'agent qui est censé conseiller, qui est censé être plus intelligent, t'as le droit de dire, ne le faites pas.
Oui, totalement. Et
oh, pourtant, mais t'as quand même le droit, d'intervenir en disant ne fais pas, c'est une immense totalement, connerie. Daniel. Sauf si tu trouves que c'est bien de foutre le bordel, mais parce que tu sais que l'un des tiens va récupérer l'équipe derrière.
À la décharge, pardon, à la décharge.
Sauf si tu sais que tu vas pouvoir profiter du truc.
À la décharge de tous les entourages qui étaient, que ce soit les agents, les frères, les soeurs, ils ont échangé, beaucoup de gens ont échangé avec la famille. Mais là, ils étaient pour la première fois unis sur cette idée de sauver, mais de réhabiliter le soldat Nicolas Anelka. Qui que ce soit, de ce qu'on a compris.
Oui, alors qu'il soit, pardon, Stéphane, soit uni, je le dis parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Et Robert Duverne le dit très bien, et je souscris complètement à ce que dit Robert. La contestation, la protestation sur l'exclusion, on la comprend et on la comprenait à 1000%.
Oui,
l'erreur, c'est de refuser de s'entraîner. Les deux couillons à Paris, il n'y en a pas qu'un, Daniel, ils sont deux. Et il y en a un, et j'étais dans l'after à cette époque-là, quand Le Monde révèle, enfin, ils disent pas c'est lui, mais ils disent qu'il y a un faisceau d'indices suffisamment important pour dire que, à part Stéphane Courgeon, qui est le conseiller de Jérémy Toulalan, l'autre personne, c'est probablement Thierry Braillard. Sauf que Thierry Braillard, il était ministre des Sports quand Jérémy Toulalan livre sa dernière interview en France, où il dit qu'il y a un nom aussi, dont il doit taire justement l'identité, derrière la rédaction du communiqué des joueurs. Il y a deux personnes à Paris qui, elles, sont pas dans le psychodrame en Afrique du Sud qu'on est tous en train de vivre, qui sont censées avoir du sang-froid, de la lucidité, et dire aux joueurs, ok, vous voulez protester, protestez, faites un communiqué, mais allez vous entraîner, ne refusez pas de vous entraîner.
Et c'est qui ces gens-là, François ?
Donc Stéphane Courgeon, ça, on le sait parce que lui-même l'a reconnu en 2011 dans France Football, au regretté journaliste, malheureusement, j'oublie son nom, Xavier qui a disparu, et selon les révélations du Monde dont on avait parlé dans l'after, si tu te souviens, en 2015, Daniel, Thierry Braillard, qui était lyonnais. Il y avait beaucoup de joueurs aussi qui étaient de l'OL, donc le rôle de Jérémy Toulalan, de Sébastien Schillaci.
On arrive au bout, je vous le dis. Tout ça a été passionnant. J'ai une dernière question pour François. Est-ce que tu as prévu de porter plainte contre Raymond Domenech pour insulte publique?
Oh non.
Pour sa réaction sur le communiqué quand il a
fait ça. Mais c'est un compliment dans la bouche de Raymond.
Ah, très bien. Bon, d'accord. Bah, tu dois être dans le journal intime aussi.
Sûrement, Stéphane.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, François.
Je te dirai en off.
D'être revenu. Merci, Stéphane, d'être venu
merci
aussi.
Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Beaucoup.
On vous renvoie sur Netflix.
Merci, les amis.
Le bus, les Bleus en grève. Donc, pour revivre cette période-là du plus grand fiasco de l'histoire du sport français.
Si je peux même juste me permettre, je voulais juste remercier Nicolas Vallade et Johan Zerbi, qui sont les coproducteurs de chez Brefilm, avec qui nous avons travaillé sur ce super projet, et rétablir cette petite vérité. Oui, Jérôme Saporito, à un moment, a essayé de faire ce documentaire, mais à aucun moment nous l'avons dépossédé de la paternité de cela. Nous avons mené nous-mêmes notre propre ambition de le faire. Okay. Il s'avère que Netflix a grandement abondé à notre projet, et en chemin on a rencontré Jérôme, et aujourd'hui on a pu faire ce documentaire quelque part aussi grâce à lui.
Je sais à quel point est sérieux dans le travail, j'en sais quelque chose. On s'est vu 4 fois.
Merci à vous deux. Si vous êtes arrivés en cours de route, le podcast de l'After va être dispo très bientôt. Merci Daniel, merci ciao. Kevin. L'After est de retour demain, bien sûr. Et toutes les infos, je vous rappelle, autour de la liste des Bleus du rassemblement qui débutera le 29 mai, on vient d'avoir l'info, sont sur rmcsport.fr. Dans une seconde, les nuits du Casar enchaîné. Ciao.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.